Hier, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a dévoilé quelques éléments de la loi sur les fake news qui devraient être déposées dans les tout prochains jours. Une loi baptisée « Loi de fiabilité et de confiance de l'information ». Quel dispositif pourrait être mis en place? Comment mesurer leur efficacité? Bonjour Pascal Froissart.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en communication à l'université Paris 8. Alors tout d'abord, une question compliquée. Comment définir ce qu'est une fake news?
Alors c'est très très compliqué en fait, c'est même le problème principal. Françoise Nyssen fait référence à une sorte d'évidence en disant on n'a pas besoin de les définir, c'est déjà défini dans la loi de 1881 sur les fausses nouvelles. Ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est de rabattre finalement le problème des fake news qui lui est tout moderne et tout récent et qui a tous les atours d'une sorte de nouveau mal, sur des choses qu'on connaît depuis longtemps, qui consistent à divulguer des fausses ou des vraies informations. Mais surtout, ce sont des faits, les fausses nouvelles, qui sont déjà encadrées par cette fameuse loi de 1881.
Qu'est-ce qu'elle disait, cette loi, Pascal Froissart?
Ça punissait simplement la propagation de fausses nouvelles. On méritait une amende de 45 000 euros si on était pris sur le fait à diffuser volontairement. Le juge, je précise que je ne suis pas juriste, mais le juge appréciait généralement l'intention de la personne qui était visée par ce délit. Si le délit, la mauvaise foi était avérée, alors on pouvait risquer d'être condamné. Mais depuis 1881, cette loi marche bien pour la presse, et jusqu'à présent, Internet existe déjà depuis une bonne vingtaine d'années, on n'avait pas eu besoin de refaire une loi ad hoc, une loi spéciale pour ça. Donc c'est vrai que cette loi un petit peu conjoncturelle en ce moment pose une sorte de problème, on se demande si c'est pas une loi opportuniste en fait, une loi plutôt basée sur une campagne de communication, sur des faits qui seraient plus de l'ordre de la stratégie politique que d'un véritable traitement social d'un problème particulier.
Alors, stratégie politique, on a notamment pu lire qu'Emmanuel Macron souhaitait rendre la monnaie de sa pièce à Russia Today, puisque un certain nombre de médias soutenus de manière plus ou moins claire par le Kremlin l'avaient attaqué lors de la campagne présidentielle. Et alors, on évoque la possibilité de suspendre une licence d'émettre en France pour un certain nombre de médias qui seraient considérés comme étant des producteurs de fake news, par exemple, donc Russia Today. Ça vous paraît possible? Est-ce que ça vous paraît souhaitable?
Alors c'est effectivement une des trois dispositions là de cette espèce de projet de loi dont on ne sait pour le moment on ne sait que deux choses. Hein. C'est le discours de Macron et le discours de Nyssen, c'est-à-dire deux personnages de l'État qui annoncent justement dans la sphère politique et la sphère publique ce projet-là. On n'a toujours pas le texte. Mais vous avez raison, l'un des éléments, c'est cette fameuse convention entre le CSA et les opérateurs de diffusion médiatique. Et cette convention-là pourrait être dénoncée dans le cadre, alors je reprécise encore, ce projet de loi concerne uniquement la campagne électorale. C'est l'un des éléments positifs de cette loi-là future, c'est qu'elle ne touche pas à la loi de 1881 sur la presse, mais c'est une sorte de toilettage des lois ou des textes qui encadrent les campagnes électorales et qui sont donc des textes dérogatoires qui permettent des choses dingues comme la suspension de la liberté d'expression au moins pendant 24 heures avant un scrutin.
Donc, et oui, pour par exemple la publication des sondages, autre disposition prévue donc par cette proposition de loi dans le champ numérique, cette fois-ci en particulier sur les réseaux sociaux, Pascal Froissart, l'obligation d'informer qui publie l'information et combien l'auteur de l'information a payé pour que celle-ci soit favorablement relayée. Alors, est-ce que ça peut être efficace?
Alors, ça pourrait être efficace, c'est très bien, parce que c'est ce que font déjà les opérateurs. Par exemple, Google s'est obligé à marquer devant certains de ses résultats de recherche le petit mot « annonce » pour bien préciser que à ce moment-là, ce lien-là est bien sponsorisé par un annonceur. Maintenant, ça n'a aucun aucun impact sur le comportement des internautes. On voit très bien, par exemple, dans le cas de Google, que lorsqu'on analyse plutôt les clics des internautes sur une liste de recherche, c'est pas du tout le petit mot annonce qui dirige le comportement, c'est simplement la position à l'intérieur de la liste des résultats de recherche qui dirige le choix du clic de l'internaute. C'est-à-dire, en gros, si c'est en haut et à gauche, c'est cliqué. Si ça ne l'est pas, si c'est en bas, même si c'est plus pertinent, ça n'est pas cliqué. Donc, le mot annonce ne suffira pas. Dans le projet de loi, il est mentionné que non seulement on aura le mot annonce ou sponsorisé ou je ne sais pas quoi, enfin, que ce sera mentionné, mais en plus, on aura le montant du contrat qui lie le sponsor et la plateforme. Mais ça, encore une fois, est-ce que on risque pas d'avoir l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on appelle un effet boomerang, un effet stressant, un effet de simplement de putaclic, hein, de clickbait, comme on dit, c'est-à-dire plus on a l'attention attirée par des petits mots du genre, je sais pas, 1 million a été versé pour diffusion de cette nouvelle-là, peut-être qu'au contraire, ça va générer de l'audience. Donc il est extrêmement compliqué de légiférer en la matière. Ceci dit, c'est un bon truc, une avancée d'obliger les plateformes à mentionner si elles sont, si elles donnent de l'information à titre gratuit ou à titre payant, naturellement.
Une dernière question.
Sur la convention d'émettre par le CSA, ça pose quand même un problème de compréhension des diffusions de médiatiques, c'est-à-dire bien sûr qu'on peut retirer la licence d'émettre de Russia Today sur le sol français, mais si Russia Today décide de publier en français depuis Moscou ou depuis Saint-Pétersbourg, n'importe, des contenus politiques visant la politique française, vous pensez bien que la convention des maîtres ne sera pas nécessaire. Ils pourront passer par les réseaux Internet, et ces réseaux-là sont parfaitement perméables, à moins de créer une espèce de grand pare-feu à la chinoise qui nous mettrait à l'abri de ce genre de propagande. Mais donc la première disposition de cette loi-là est aussi extrêmement problématique.
Et oui, elle pose problème, et c'était effectivement la dernière question que je voulais vous poser, Pascal Froissart, comprendre comment on pouvait faire si un site était diffusé à l'étranger. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette loi problématique, selon vous, au sujet des fake news.